dans ce livre. Les révolutions trouvent toujours leur façon, on va dire. Elles passent parfois par des trous de souris. Vous faites dire à vos personnages, je cite, « Je me rends compte que faire les révolutions... »
Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca.
Bonjour, bien bonsoir, bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones, le 216e épisode des Amazones. Et oui, et officiellement notre premier épisode de la saison d'automne 2022, puisque j'avais collé la fin de la saison d'été 2022, il y a comme deux épisodes, puis là j'ai réalisé comme, ah non, il restait le 30. Mais on est officiellement en automne, radiophoniquement parlant.
Oui.
Comment ça va, Isabelle?
Hey, ça va bien, Elisabeth. Toi?
Hey, ça va, mais c'est le déluge. Au moment d'enregistrer, oui? En fait, pour les personnes qui le savent, on enregistre aux deux semaines, donc les mardis soirs. Donc, c'est mardi aujourd'hui, le 13 septembre, et il y a une pluie torrentielle depuis à peu près midi, là, je devrais dire, là, comme la pluie est incessante. Et en plus de cette pluie incessante-là, nous, on est au studio de choc qui se situe au niveau métro de l'UQAM. Ainsi, l'eau, telle la loi de la gravité le dit, ben ça descend. Et là, c'est descendu au niveau métro de l'UQAM. Il y a de l'eau partout, dont sur le tapis de nos studios. J'ai les pieds dans l'eau. Mais
bref,
voilà.
Si c'était possible d'avoir une commandite de Calinette, on aimerait ça.
Certainement, certainement. Et si l'émission cesse de façon absolument abrupte aujourd'hui, c'est probablement parce qu'on est décédé d'un choc électrique.
Oui, ou clairement une panne de courant causée par un autre gros orage.
Ça serait quand même décevant parce que ça m'a pris beaucoup de transport en commun aujourd'hui.
Oui, oui. Le déplacement était ardu, donc oui, ça serait bien désappointant tout ça.
Ben c'est ça. En plus, j'ai dû comme tout coordonner mes transports pour être le moins possible sous la pluie. Puis je pars de Rivière-des-Prairies, là, c'était comme beaucoup de gestion.
C'est un challenge en soi, oui. Ah, bravo.
Mais merci, mais écoute, c'est si peu, dans le fond, c'est si peu lorsqu'on pourrait penser au fait que notre planète pourrait exploser, qu'on devenait responsable de terraformer une nouvelle planète pour pouvoir accueillir donc le berceau de notre civilisation qui puisse repartir. Ça serait une autre paire de manches que l'UQAM dans l'eau.
En effet. Puis je te vois semer tel un petit pousset télévisuel, des miettes de pain sur le radiophonique, pardon, semer des miettes de pain sur le sentier de notre sujet ce soir.
Ben certainement en fait, puis je suis vraiment contente qu'on parle de ce sujet-là, Isabelle, aujourd'hui, parce que des fois, ok, avant de rentrer dans le sujet, c'est que des fois il y a des gens qui aiment pas ça, les petits bonhommes.
Oh mon Dieu! Je parlais de ça cette semaine.
Ah ouais?
Quelle synchronicité! Oui, oui. Dimanche, j'ai jasé de ça avec un ami. Comme quoi, mon Dieu, il y a des gens qui vouent une haine féroce au médium d'animation pour adultes.
Mm-hmm.
Et mon Dieu, que moi, je pourrais pas m'en passer dans ma vie.
Non, ben moi non plus, j'adore ça. Là. J'en écoute quand même plusieurs. Et je suis souvent la première à vouloir les écouter quand il en sort une nouvelle.
Mais bien sûr.
Puis là, aujourd'hui, on va parler de Solar Opposites, qui est quand même un hit, là, on va le dire. Là. Apparemment, c'est un des plus gros succès de tout Hulu. Là, donc, c'est quand même assez exceptionnel. Là.
Ben, en effet.
Parce que nous, on l'écoute sur Disney Plus.
Oui, tout
pense.
À fait. Ben oui, parce que Canada, c'est ça. On l'écoute sur Disney Plus. Fait que je suis ravie d'apprendre que ça cloud sur Hulu, parce que pour vrai, Mais c'est fantastique.
Parce que là, il y a 3 saisons qui sont sorties sur Hulu et 3 donc saisons qui sont sorties sur Disney+. Des fois, il y a des délais de disponibilité des saisons. C'est arrivé avec plusieurs séries, justement, de FX, de Hulu et tout ça. Il y a tout le temps comme un mini délai avant que ça arrive sur les sites de streaming. Puis c'est donc FX et Hulu qui sont sur Disney+. Donc, c'est tout chaud si vous l'écoutez dans cette façon-là, parce que le dernier épisode est sorti la semaine dernière de la saison 3, et je lisais que avant la sortie de la saison 3, donc sur Hulu, donc originellement, il y avait déjà annoncé que la saison 4 était déjà prévue, était déjà cannée et produite, et que tout irait bien à ce niveau-là.
Bon, mais dans cette journée de pluie, il y aura au moins une bonne nouvelle. Ben, saison 4 de Solar Opposites.
Et si on se fie donc au pattern de ce que je disais, parce que Solar Opposites étant une série de Justin Roiland, on aurait pu se dire, bon, ben, des fois, les séries, c'est moins clair quand est-ce qu'ils sortent. Là. Surtout Rick and Morty, c'était quasiment aléatoire là, quand oui, est-ce que ça sortait. Mais là, c'est ça, Solar Opposites. Donc, saison 4, ça devrait venir en l'été prochain, donc avec des petits délais pour que nous puissions les écouter au pays de la feuille d'érable.
Il n'y a rien qui va m'empêcher de me retaper 3 saisons avant de commencer la 4.
Ah, mais ça, c'est quelque chose, par exemple, parce que je suis tellement habituée, souvent quand on parle d'une série aux Amazon, je suis vraiment habituée de me commettre à l'écouter au complet, de me commettre à m'amuser à OK, là, je vais le binge-watcher. Des fois, je vais la réécouter, mais des fois, j'ai pas le temps. Et c'est un peu le cas avec la série, c'est que là, il y a des choses qui ça fait longtemps là que j'ai écouté. Fait que là, j'espère ne pas avoir trop de bévues. J'ai sorti la liste des épisodes, le casting et tout ça, donc on va pouvoir s'y fier si on a des questions. Mais c'est quoi, Solar Opposites? Attends, hey, sais-tu qu'est-ce que je pense qu'on devrait faire?
Quoi?
On devrait aller sur les internets, vois-tu? Ouais. Puis on devrait aller sur un site mieux connu sous le nom de YouTube. C'est drôle parce que tu tapes YouTube, puis dans Google, puis là, la première affaire, c'est une ad pour aller sur YouTube. Mais cette ad n'est absolument pas nécessaire. Pourquoi vous payez pour mettre un ad?
C'est
pour
aller ça, sur oui, YouTube, c'est un peu. Il y a des affaires qui ont besoin de beaucoup plus de pub dans la vie que YouTube.
Ben non, mais c'est parce que YouTube appartient à Google. Fait que là, ils mettent une ad sur leur truc.
Oui, de... ça, je comprends l'affaire, mais je veux dire, pour les gens qui savent pas qu'est-ce qui est acquis, là, juste déjà, YouTube, faire de la pub, c'est ridicule. Il me semble que ma grand-mère de 85, on la salue, c'est quoi YouTube?
Fait que... En tout cas, on s'en va écouter, donc, maintenant... Ah non, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais la première intro. Ça, c'est parfait. Donc, mettons qu'il y avait du son, ça serait encore mieux. On s'entend. Fait que j'ai levé le son. On recommence du début.
Hey, c'était pas prévu tout ça, là.
Puis on va aller écouter. Donc, Corvo nous expliquer c'est quoi Solar Opposites. Pourquoi ça marche pas? Ça, j'haïs ça.
Ah, oh, c'était tellement une bonne idée.
C'est parce qu'ils ont sûrement... Oh. On s'en va, c'est mélangeur. Écoute, avant que... c'était tellement une bonne idée. C'est la première fois que ça m'arrive qu'ils décident de couper le son de Chrome. Genre, je suis vraiment fâchée.
Quelle horreur. Ah! Mais bon.
Mais grosso modo, là, si je peux me permettre... attends, regarde, y a-tu du son?
Planet Schlurp was a utopia?
Y a pas de son. Hey, ça, c'est choquant. En tout cas. Planète Schlurp was an utopia, c'est ça. Donc, la planète Schlurp, donc, qui est une planète d'un autre système solaire, d'un autre endroit très, très, très loin, donc, qui est une planète qui a explosé sous le coup d'une météorite. Mais avec la venue de la météorite, les Schlurpians ont préparé, donc, 100
vaisseaux spatiaux.
100 vaisseaux spatiaux. C'est-tu 50? Parce que c'est...
C'est 100 équipes qui partent. Équipes de 2 Schlurpians. T'en as un qui est le chef de mission.
Puis l'autre qui est le chef du Pupa.
Du Pupa. Pupa, c'est leur animal domestique dont on va vous expliquer le but. Mais bon, c'est quand même... Ça s'identifie comme chat, chien, machin. C'est un peu un équivalent de ça. Mais il y a un but beaucoup plus précis et beaucoup plus grandiose que votre animal domestique.
Exactement.
Et ils partent avec leurs replicants.
Donc, c'est leurs clones.
Oui, c'est ça. Qui sont considérés mais comme leurs enfants, entre guillemets, parce qu'ils sont définitivement plus jeunes. Il y en a un qui est un défenseur, un gardien armé. Puis ça, ça devient clair aussi quand on dans chaque mission, il y en a un et c'est toujours un des replicants. Et t'as l'autre qui est là pour chiller, visiblement. ils partent donc avec chacun leur réplique, leur petit clone. Et le Pupa qui est donc là pour...
J'ai trouvé le problème. On va l'écouter rapidement, Corvo, donc nous décrire
ça. C'est drôle en maudit. Planète Shlorp was a perfect utopia until the asteroid hit. 100 adults and their replicants were issued a pupa and escaped into the space, searching for new homes on uninhabited worlds. We crashed on Earth, stranding us on an already overpopulated planet. That's right, I've been talking this whole time. I'm the one holding the pupa. My name's Corvo. This is my show. I just dropped the pupa. Do you see me? This is ridiculous. I hate Earth. It's a horrible home. And one of these days I'm gonna blow it up and just be done with the whole stupid thing. I swear to God. Oh, c'est tellement parfait.
C'est vraiment excellent. Puis, mais c'est ça, c'est ce que ça disait, 100 adults. C'est pour ça que je me demandais si c'était 50 missions, mais de toute façon, il y a un épisode où est-ce qu'on voit qu'il y a comme 100 missions.
Oui, il y a 100 missions.
Fait que c'est 100 adults, c'est sous-entendu que, genre, Terry, c'est pas un adulte, là, je sais pas trop quoi.
Ah, ben, en tout cas, il agit pas comme tel, mais bon, bref.
Mais donc, comme ça dit, oui. Ils sont censés arriver sur des planètes qui sont inhabitées pour pouvoir, donc, préparer le pupa, puis le Pupa va donc être capable de terraformer la planète inhabitée pour la rendre habitable pour que les Shlorpians qui sont partis dans d'autres missions, donc le premier qui réussit dans le fond, va créer la planète.
Oui.
De ce que je comprends aussi, quand il recrée la planète, ça recrée même les individus qui étaient sur la planète.
Exactement. Au stade où ils étaient rendus au moment où... Donc les gens qui ont mené à bien la mission et dont le Pupa a terraformé vont mourir dans le processus.
Ben voilà.
Voilà. Et le Pupa va devenir la planète. C'est un peu weird, mais voilà. Et ça a l'apparence d'un petit blob attachant là, qui fait mille et une pitreries dans toute cette aventure.
Puis comme dit Valence Leclerc dans le premier film de Dans un ghetto chez vous, ce qui est le fun avec la science-fiction, c'est qu'on peut dire n'importe quoi.
Oui.
Donc c'est la situation de départ. Mais vu qu'ils sont arrivés sur la planète Terre qui est, comme ils disent, déjà overpopulated, ben on se ramasse dans la situation où est-ce que, ben oui, ça, c'est comme la mission principale, mais c'est une excuse, en fait, pour un peu parler du genre humain sous la couverture, ben, l'œil.
Sous la loupe, en fait,
d'une gang d'extraterrestres, littéralement. Voilà. Et qui donc sont dans le jugement, mais qui essayent un peu de s'y faire. Il y a quand même des aspects qu'ils apprécient. Je dis ils parce que c'est Terry et Corvo, les personnages, comme, qui ont un petit peu, comment je pourrais dire, qui sont un peu plus décideurs de ce qui se passe. Là, je trouve qu'on laisse pas énormément de place à Yumulak et à Jesse. Je sais pas ce que tu en penses. Je trouve qu'ils sont là, mais sont moins là.
Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les personnages extraterrestres se conformer à un idéal terrestre qui, visiblement, n'était pas leur mode de vie sur Shlorp.
Mm-hmm.
Terry, Corvo sont comme les adultes, entre guillemets. Yumulak et Jesse sont les enfants, entre guillemets. Mais est-ce que ces réalités-là existaient telles quelles sur Shlorp? Pas sûr. Puis, j'ai l'impression que le fait que peut-être Yumulak et Jesse sont moins décisionnels dans les patentes, c'est qu'ils sont dans un rôle terrestre où, ben, les enfants, c'est moins décisionnel parce que...
C'est peut-être parce que j'ai découvert la saison 3, mais j'ai vraiment l'impression que Yumulak, on le voit presque pas. J'ai l'impression qu'il y a pas... Il y a moins d'anecdotes qui arrivent à lui, mais c'est peut-être dans ma tête, là, mais j'ai l'impression que... Mais quoi que la saison 3, c'est spécial, on y reviendra.
Oui,
là.
Oui, c'est autre chose. Puis, ben, Yumulak a créé quand même The Wall, qui est une grosse réalité de...
Oui, voilà.
De cet univers-là. On va vous parler scénaristiquement de comment c'est hot, là.
Ben, c'est ça. C'est que je dis pas que, tu sais, ils ont toute leur importance, puis ils ont tout leur impact sur l'univers, mais j'ai juste l'impression qu'il y a comme moins de temps d'antenne. C'est peut-être même une question de, comme, l'acteur...
C'est possible.
On peut-être juste moins de temps.
Moins de temps, oui, oui.
Ça se pourrait. Parce que la voix que vous avez entendue, donc, c'est la voix de Corvo. Corvo, vous avez peut-être reconnu sa voix parce que si vous avez écouté Rick and Morty, c'est la personne qui fait la voix de Rick et Morty. Mais la voix de Corvo ressemble quand même beaucoup à la voix de Rick, là, on va s'entendre. Oui. Là. C'est quand même très proche. Mais sais-tu c'est qui fait les autres voix?
Ben, j'ai vu qu'il y avait du monde vraiment hot, là, mais tell me more.
Ben, en fait, ben, Mary Mack, je sais pas c'est qui, mais celle qui fait Jessie.
Oui, elle est bonne.
Elle est bonne. T'as...
J'adore le personnage. C'est vraiment, la voix est super bien construite.
Et c'est Sean Giambrone qui fait Yumulak, mais c'est Thomas Middleditch qui fait Terry, qui est un improvisateur qu'on a vu dans d'autres séries. Dans quoi qu'on l'a vu récemment? Il me semble qu'on l'a vu dans quelque chose comme vraiment là. Il a pas joué comme dans... Je vais le trouver, là. Je suis sûre
que ça. En tout cas, ils sont fantastiques. Sérieusement, quel bon job de voix, en général. Ils sont vraiment très bons. Puis, puis en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à un odd couple classique, là.
Ouais, ben c'est ça, tu sais, que tu sais, comme il y a le personnage de Corvo qui est comme mission, puis le personnage de Terry qui est plus comme je veux plus participer à la vie humaine.
Oui,
tout ça.
Terry aime visiblement beaucoup la Terre. Il est bien dessus. Mm-hmm. Il trouve ça nice. Puis d'ailleurs, à chaque épisode, il porte un t-shirt différent inspiré d'un mime de l'Internet ou de quelque chose de vraiment très jeune et cool.
Alors que Corvo et Yumulak, à un certain niveau, parce que dans le fond, Jessie, c'est comme la replicant de Terry. Yumulak et Corvo comme portent plus des habits schlorpion comme traditionnels.
Ah, ils ont gardé littéralement les mêmes habits que quand ils étaient là. Yumulak, il a son habit de gardien de la défense. Mm-hmm. Puis c'est le genre de Falbo de la... pour faire un autre parallèle de galaxie.
C'est vrai.
C'est le genre de Falbo de la mission. Et Corvo a gardé son costume aussi, Schlorpion, et n'a jamais changé ça pour du linge humain. Terry, full-on planète Terre, Jessie aussi. Puis il y a une certaine insouciance qui vient avec ces deux-là que les deux autres n'ont pas nécessairement. Ils sont généralement plus dark et plus cyniques.
Ben ouais, ben c'est ça. Je disais que Solar Opposites, je disais, Solar Opposites, c'est Rick and Morty sans le cynisme, mais c'est comme, non, c'est super cynique, mais c'est que c'est pas pareil.
Parce il est pas à même place.
C'est ça. Parce que je pense que Rick and Morty, c'est beaucoup genre, nous sommes des humains, c'est très nihiliste, là, tu sais.
Oui.
Fait que c'est comme, nous sommes des humains, puis dans le fond, ben, surtout Rick qui est comme, tu sais, comme, ce que je veux, ben, tu sais, le true nihilism, là, genre, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux avoir, puis c'est mon aspiration, puis je m'en sacre un peu, puis j'ai pas vraiment, tu sais, très misanthrope.
Je me détruis, je détruis ceux que j'aime dans le processus, c'est pas très important.
Exactement. Alors que le cynisme, en fait, de Corvo, Terry, Yumulak et Jessie, viennent beaucoup du fait que, dans le fond, c'est que, littéralement, ils déshumanisent les humains, parce que pour eux, c'est comme, c'est pas des égaux, ou du moins, tu sais, il y a comme une espèce de façon de penser où est-ce que, tu sais, ils sont clairement plus forts, ils ont clairement plus de technologie et tout ça. Puis, le Walls, je pense que c'est un bon exemple de ça. C'est un peu comme, ben, j'ai pas ce que je veux, ben, je vais te punir parce que j'ai un petit peu le droit de regard sur ce qui va t'arriver.
Exactement, parce que j'ai des sci-fi stuff.
Mm-hmm. Donc, j'ai comme plus de. Ma puissance justifie mon comportement de tyran, là, si je peux le dire.
Oui, exact.
Il y a un très bon épisode, par exemple, de la saison 3, où est-ce que, justement, on enlève le droit... ben c'est Jessie qui veut enlever le droit aux trois autres, dans le fond, d'utiliser leur pouvoir sci-fi pour contrôler les gens, parce qu'ils disent que c'est ce qui cause le fait qu'ils sont pas invités dans des événements de la ville, dont à la photo... pour un magazine qui vient célébrer le fait que c'est une ville exceptionnelle. Mm-hmm. Et on réalise, en fait, que ben la terreur qu'ils font vivre agit comme contrôle social de la communauté.
C'est excellent aussi, parce que, tu sais, veux pas, pendant la saison 1 et 2, il se passe des choses épouvantables dans cette ville à cause de ces quatre énergumènes, et il y a personne qui fait rien. Et je trouve que c'est une belle résolution scénaristique. Il y en a plein durant cette série, des résolutions scénaristiques, de questions qu'on se pose depuis le début, et qui sont résolus en cours de route de la manière la plus inattendue possible. Et je pense que ça en fait partie, en fait. Le fait qu'on se dit, mais pourquoi il y a autant d'inaction? Et on nous amène la réponse pendant l'épisode de la saison 3 en faisant, ben oui, mais la police puis les pompiers puis les gouvernements, ils les laissent faire parce que ça régule les autres trous de cul de la place.
Puis qu'ils ont même eux-mêmes un peu peur, parce que finalement, eux autres aussi font partie, tu sais, même le gars qui était censé gérer les assholes est finalement un asshole.
Un asshole lui-même, c'est ça. À un moment donné, tu fais, mon Dieu Seigneur. Fait que ouais, il y a ça. Puis bon, bref, je pense que ça ça peut être le temps de parler du wall parce que c'est
vraiment un gros morceau. Puis ça, oui. C'est un morceau qui prend de plus en plus de place, en fait. Tu sais, on voit ça des fois dans des séries, tu sais, justement, comme il y a comme une affaire qui se passe un peu en background, puis qu'à un moment donné, il y a comme l'épisode de ce qui se passe en background. La plupart des séries font ça. Oui, comme l'épisode de la saison qui n'a pas rapport avec les gens. Tu sais, des fois, c'est à cause de conflits d'horaire. Mm-hmm. Des fois, c'est à cause de ben, quand je parle de conflits d'horaire, de peut-être d'acteurs, d'actrices.
Oui, mais c'est ça. On fait un épisode où tout le monde a un peu un break parce que là, subitement, on suit le concierge de l'hôtel.
Exactement. Oui. Mais là, cette tentative-là, donc d'aller dans ce type de truc-là, dans ce type d'épisode-là, ne fait que prendre de plus en plus de place avec les saisons. Et c'est que Yumulak, donc pour punir les gens, puis ça, on le voit dès l'épisode 1, dans le fond.
En fait, c'est même pas tant des punitions, c'est juste le monde qui le gosse, lui.
Ouais.
Par des comportements qui, des fois, sont répréhensibles. Il y a des fois, on fait « Ah oui, c'est vrai que ça gosse. » Et il y a d'autres fois, on fait « Non, ça, c'est vraiment juste toi qui as fait un caprice. » Mais il y a un gun qui réduit les gens en petites personnes. Et
c'est ça. Puis je pense qu'il l'utilise dès le premier épisode pour une bully, dans le fond, qui est méchante avec lui. Puis il la rapetisse, puis il la traite un peu comme... Il la met littéralement dans un petit labyrinthe là, de souris et tout ça. Puis on comprend qu'il fait ça souvent. Puis ben pour comme abriter toutes ces petites personnes-là. Donc, imaginez le petit monde des emprunteurs. Là. Je ne sais pas si vous avez la référence du film des années 90.
C'est carrément ça.
Il les met dans son mur, donc dans un genre d'immense terrarium.
Ça ressemble vraiment à c'est probablement ça l'inspiration, là, les espèces de ant farms, là, les fermes de fourmis. Là,
un terrarium.
Où est-ce que tu as vraiment une vitre sur le côté, puis tu vois, tu as plein de petites sections, plein d'étages différents, puis tu vois toutes ces petites personnes-là qui ont été miniaturisées par Yumulak évoluer comme société et tenter de survivre.
Parce que les premières personnes qu'on voit rentrer dans le mur, bien, dans le fond, qu'on suit dans le mur, il y avait comme les premières personnes qu'on voit, il y avait déjà des gens dans le mur, mais là, au début, c'est très, 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 justement, sauf qui peut, le plus fort va gagner, tout ça. Et s'installe quand même justement des fonctionnements sociétaux là, tu sais, comme il y a des gens que ça doit faire comme 2 ans qui sont dans le mur là, tu sais, puis qui se sont juste recréés, donc une, tu sais, je pense qu'il y avait justement, il y avait des rats qui ont été récupérés pour prendre le lait,
les souris, ils font du mouse milk,
exactement,
puis
parce qu'ils font nourrir aux bonbons exclusivement,
en fait Jessie a le pitié d'eux autres et c'est elle qui les nourrit, fait qu'elle envoie, il y a comme une petite chute où est-ce qu'ils mettent les gens qui rentrent dans le mur et où elle envoie de la bouffe, des bonbons puis des cochonneries, là. En tout cas, les affaires qu'un enfant voudrait manger tout le temps, mais qu'un adulte qui a été rapetissé par un enfant extraterrestre fait « Hey, j'aimerais ça avoir une pomme. » C'est ça. Bref, c'est ça qu'ils reçoivent à manger. Et il y a même un culte qui se crée dans le mur qui glorifie Jessie comme étant la créature qui les sauve. C'est intéressant parce que Dans l'univers de Solar Opposites, on suit beaucoup les quatre extraterrestres dans un univers humain, mais où on n'a pas de références qui sont nécessairement politiques, sociétales ou religieuses. Mm-hmm. Et on dirait que tout le propos de ça a été mis dans le mur.
Effectivement. Puis
c'est assez fascinant.
C'est vraiment très fascinant parce que c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'écoutais un épisode parce que là, dans saison 3, il y a des épisodes quasiment complets qui sont sur le mur.
Mais la première fois qu'ils l'ont fait, c'est dans saison 1. Puis je me rappelle d'avoir fait « Oh my God! They are going full on mur! » C'était comme « Oh mon Dieu! » Puis c'était vraiment là, c'était comme un film d'action. Ils ont mis beaucoup de budget sur la musique. Puis les plans font très... gros film d'action américain.
On veut parodier. On veut quand même parodier un peu, genre, justement, c'est les, genre, les Mad Max, les Waterworld, les d'autres films dont je n'ai pas le
référent.
Tous
les films de réalisateurs qui explosent, là.
C'est ça, tu sais, c'est là que ça... C'est là que ça explose. Puis tu sais, c'est souvent justement comme, genre, non, depuis le début, c'était moi. Oh non, je ne peux pas croire, tu m'as trahi. Et là, on a besoin d'un... Tu sais, comme il y a même un petit peu un petit côté Hunger Games, là, des fois, justement, avec le fait qu'il y a un des personnages qui est comme élevé en tant que sauveuse là, de ce groupe-là, dont le nom m'échappe, là.
C'est Sherry.
Sherry, voilà. Sherry qui est jouée par Christina Hendricks,
oui.
Qu'on a vu dans Mad Max, entre autres.
Qu'on a vu dans
Mad Men, mon Dieu, parce que je viens de dire Mad Max.
La très pulpeuse rousse qui a fait fantasmer beaucoup de monde.
Mm-hmm. Exactement.
Voilà, moi, y compris moi d'ailleurs, parce que...
Wow. Elle est magnifique.
Quelle magnifique fille et quelle actrice de génie. Mm-hmm. Et oui, elle voice ce personnage à la perfection.
Et voilà, donc on suit, ben, à un moment donné, on a l'impression que, ben, elle était comme importante, mais elle devient le personnage principal qu'on suit dans le mur, là, je veux dire.
En fait, ça change beaucoup, puis c'est pour montrer plusieurs, justement, facettes, parce qu'au début, on suit Tim.
Ouais, c'est
beaucoup
ça.
Plus,
qui vient de rien, dans le fond, qui est comme le plus petit, un peu plus comme le petit génie, un peu, si on peut dire, oui. Mais qui s'élève jusqu'à la position de pouvoir grâce...
Ben, quand il arrive dans le mur, en fait, il comprend qu'il y a un gars qui s'appelle The Duke qui
fait régner
la terreur, puis qui sont à toute fin pratique dans un régime totalitaire, et lui va à toute fin pratique organiser une révolution communiste.
Exactement.
C'est grosso modo ce qui se passe.
Mais pour ce faire, il se dit que pour qu'une révolution soit quand même efficace, il nous faut un martyr.
Oui.
Et
c'est Sherry qui va devenir son martyr. Et ce qui cadre complètement avec le cadre de la révolution communiste, là, ceci dit. Là, c'est pas mal ce qu'ils ont tout fait. Là. Mais bon.
Qu'est-ce que t'as pensé quand ils ont essayé de tu sais, comme, parce que dans le fond, il va pousser Sherry par un trou qui est dans l'autre côté du mur, dans la salle où le Duke... avait comme son bureau.
Oui,
principal.
En fait, le Duke avait littéralement un chemin vers l'extérieur, là.
Donc, il va la pousser en la faisant passer pour morte.
Oui.
Mais là, au comble de malheur, non seulement elle n'est pas morte, mais elle est enceinte de Tim. Puis là, c'est comme, oh my God. Mais là, c'est le Duke qui va comme l'aider à survivre.
Oui, tout à fait.
À accoucher, tout ça.
Moi, je trouvais ça très réaliste, tout ça, pour la simple et bonne raison que je m'excuse, mais tu sais, in a tiny, tiny world, quand t'as pas de contraception, puis que tu couches avec quelqu'un,
ben oui.
Beaucoup de chances que ça arrive. Fait que déjà, un point, solar opposite, c'est pour ça.
Mm-hmm.
J'ai beaucoup aimé tout ça quand on comprend en fait que Sherry est toujours en vie et que le Duke aussi, cette espèce de père-là qui est complètement incongru,
mm-hmm.
cette espèce de survie-là qui est complètement incongru aussi. Je trouve tout ça follement intéressant. Pis pas que ça m'a détourné de l'histoire principale de Solar Opposites, mais c'est devenu comme un élément. En fait, je trouve ça habile. Scénaristiquement, ils nous ont rendu l'histoire des habitants du Wall juste assez intéressante pour qu'on puisse plus s'en passer. Mais l'histoire des quatre extraterrestres est encore assez intéressante pour qu'on veuille pas non plus s'en détacher complètement.
Mais écoute, il y a même des épisodes, parce qu'on rencontre les Silver Cups dans la saison 3, puis il y a même un épisode où la moitié de l'épisode se passe chez les Silver Cups, l'autre moitié se passe dans le Wall, puis on voit les quatre extraterrestres juste au début puis à la fin quasiment.
Oui, puis ça aussi c'est drôle parce que on ne nous prend pas pour des imbéciles en ce sens qu'ils font... Oui, on va l'adresser, là, le fait que on les voit juste au début puis à la fin, puis que c'est pas un épisode là-dessus. Il y a un des titres d'épisodes, justement, le premier épisode où est-ce que... C'est-tu le premier? Je me rappelle plus. Ou le deuxième, où on suit vraiment juste le Wall, ou le titre...
Saison 1, ça?
Saison 1 ou 2, je me rappelle plus, mais le titre de l'épisode, c'est... Comment est-ce qu'on a fini par remplacer les verres à shooter de Terry, ou une affaire de même, et où on voit juste Terry, à un moment donné, en plein milieu... de l'épisode, faire « Oh non, mon verre à shooter, il l'a échappé! »
Mais c'est ça, saison 3, c'est la même chose. Il y a un épisode où c'est comme Terry et Corvo se chicanent dans le stationnement.
Oui!
Ça arrive à une minute d'épisode, puis après on suit le mur.
Après on suit le mur, c'est tellement drôle! Mais tu sais, c'est tout des twists comme ça, c'est follement bien écrit, pour vrai.
Puis on s'entend aussi que, tu sais, comme le génie de Justin Roiland a quand même à voir avec ça. Tu sais, je dis le génie, mais tu sais, c'est parce que je trouve quand même que c'est un créateur qui est très, très, très prolifique. Parce que, oui, comme on disait, bon, c'est le co-créateur de Rick and Morty aussi, avec Dan Harmon. Dan Harmon, qui est le créateur de Community. Fait que, tu sais, déjà, on commence à voir comme certaines communautés d'esprit se faire avec une espèce d'humour. T'as écouté Community?
Oui.
Bon, ben, tu sais, dans Community, il y avait ça aussi, là, tu sais, comme l'espèce de... Moi, j'adore quand une série atteint son niveau où est-ce que ça devient méta de la série.
Oui, c'est tellement fantastique. Mais dans Community, ça arrive quand même relativement rapidement.
Ouais, c'est ça. T'sais, puis la dernière saison, là, avant que ça soit cancellé, là, c'est-tu la dernière saison? Là? T'sais, l'épisode où est-ce qu'à un moment donné, ils jouent à se gonner, puis là, ils sont comme, ils représentent des...
J'adore tous les épisodes où est-ce qu'ils font paintball.
Ouais, ça doit être ça.
Parce que ça revient comme... À toutes les années, ils refont paintball, puis ça a juste pas de sens.
Mais c'est ça, puis ben c'est la saison là que je. Il y a
un épisode où est-ce que Abed il accouche une femme en background.
C'est vrai, puis mais
ça c'est fantastique. C'est des affaires de scénario que tu fais, man. Pendant que l'action se déroule, tout ce que tu vois c'est l'autre en arrière qui est comme un héros.
mais c'est ça, c'est que dans le fond j'ai l'impression que tu sais comme. Ils font ça là-dedans aussi, ou est-ce que c'est des hommages par-dessus hommages
vraiment
à leur propre série, mais aussi à la télé en général. Mm-hmm. Rick and Morty comme réussit à le faire beaucoup en fait le biais de la science-fiction, parce que c'est à ça que la science-fiction sert dans cette série-là. Puis je pense que c'est ce qui sert aussi un peu dans Solar Opposites, c'est que dans le fond l'excuse d'avoir de la science-fiction nous permet un peu. Puis c'est intéressant parce que je disais que le nom m'échappe parce que je l'ai lu comme ce matin là, mais le co-créateur de Solar Opposites c'est Mike McMahon,
oui,
qui est le créateur aussi de Star Trek Deck quelque chose là, la série animée de Star Trek.
Animée de Star Trek. OK, fait que tout est dans tout. Okay.
Tout est dans tout. Puis ce que tu sais, si on se fie à Star Trek, tu sais, je suis pas une grande Trekkie dans la vie, mais tu sais, de ce qu'on sait, c'est que l'utilisation, tu sais, de la plateforme holographique qui leur permet de vivre certaines réalités virtuelles permet justement de faire, ben on a la technologie pour juste faire que, ben regarde, ça donne que cet épisode-là, ben ça va se passer en Renaissance. Puis on s'en fout parce que on est dans une réalité virtuelle.
Exact.
Puis c'est un peu aussi ce qui se passe avec, Doctor Who et tout ça, là, tu sais, donc ces séries-là.
Ben même dans, voyons comment ça s'appelle, The Orville, ils ont cette technologie-là d'avoir une salle où est-ce que tu peux... faire ce que tu veux. C'est une salle qui va recréer ce que t'as envie que ça recrée, puis tu peux la louer à l'heure. C'est comme ça qui fonctionne dans le vaisseau.
Okay.
Fait que c'est, tu la réserves entre telle heure puis telle heure, elle est à toi, tu fais ce que tu veux dans ta salle. Merci, bonsoir. Puis il y a des simulations de mille et une affaires.
Bon, ben c'est ça. Fait que, tu sais, l'utilisation de ça, tu sais, je veux dire, il y a des épisodes complets qui... Puis souvent, ils jouent sur le fait qu'ils savent que c'est un hommage. Il y a un épisode qui est clairement inspiré de... En fait, c'est drôle parce que tout le long de l'épisode, ils se demandent dans quel film ils sont.
Oui.
L'épisode qui se passe dans un site de
villégiature. Oui, de villégiature, puis ils sont comme,
on est-tu dans Get Out ou on est-tu dans La Purge? Oui. On est-tu dans...
C'est tellement drôle. Il y a un épisode où c'est Sigourney Weaver qui sauve la mise avec son suit de Alien.
C'est dans lequel épisode?
Saison 1.
Ah non, mais c'est ça, là, comme je te disais.
C'est super loin, l'épisode où est-ce que Yumulak, il y a de la Big Dick Energy. Excusez, ça a l'air... Hey, c'est la phrase la plus weird à dire quand même. Mais c'est ça, c'est un épisode où est-ce que Yumulak est pas très populaire à l'école, puis il veut augmenter sa cote de popularité. Et on lui parle de la Big Dick Energy. Et il se fait un grossissement peignin maison avec sa science-fiction qui fait qu'il est vraiment rendu avec un gros machin, puis ça... paraît dans son énergie, mais à un moment donné, il perd le contrôle de son gros machin et il devient trop gros et il le contrôle complètement. Et c'est Sigourney Weaver qui va venir sauver tout. C'est très drôle.
Il y a un épisode, en fait, qui tourne beaucoup, beaucoup, beaucoup autour du wall dans la saison 1 qui s'appelle « Terry and Corvo Steal a Bear ».
Oui.
Puis, dans le fond, l'épisode que tu parles, c'est dans la saison 2. Attends, je le retrouve. « The Unlikely Demise of Terry's Favorite Shot Glass. »
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oh non! Mon verre à shooter! Ça m'a tellement fait rire.
Puis j'aime beaucoup le fait que le dernier épisode de la saison 2 s'appelle « The Solar Opposites Almost Get an Xbox ».
Oui!
C'est comme « OK ». C'est clairement pas de ça qu'on parle dans l'épisode.
Non, pas tant. Ben, en fait, oui, puis non, me semble.
Mais ce qui est fascinant, c'est ça, c'est qu'en plus, ils réfèrent à eux-mêmes comme de Solar Opposites. Uh-huh. Ça, c'est beaucoup quand ils, justement, puis je pense que même que parfois, ils parlent du fait comme moi, mais c'était dans saison 1, ça. Fait que comme suit.
Ben, il y a des choses qui ramènent, puis que, en fait, ça, je pense que c'est mon bout préféré de la série, c'est que, il y a des affaires qui disent, et tu penses que c'est juste une joke, et à un moment donné, plus tard, il y a un épisode là-dessus.
Mmh.
Genre, le bout où est-ce qu'ils disent à un moment donné, ils savent pas que quand on meurt, on devient des arbres, puis on revient.
Ah!
Et il y a un épisode où ils meurent tous et ils reviennent en arbre.
Oh my God!
Et ils repoussent leurs membres dans l'arbre. C'est fucking weird. Puis, ils l'ont comme dit avant, puis quand ils reviennent en arbre, je fais... Oh, j'ai fait, oh my god, l'épisode 1, ça m'a fait le même feeling que la première série que j'ai réalisée qui faisait ça, puis que j'ai fait, c'est du génie, puis que maintenant quand je la réécoute, je fais
How I Met Your Mother?
Oui.
Ouais, c'est ça.
Parce que Ted là, ah, mais mais bon, bref, ouais. mais il y avait ce génie là de on plante des graines, on met une
on fait germer, donc, dans ouais, votre cerveau, le fait que...
Que ça existe, que ça se peut. On fait juste le laisser là.
Mm-hmm.
On attend 2 saisons, puis après, on revient, puis là, tout le monde fait « Oh! » C'est ça, la magie. Et l'affaire des arbres, ça m'a vraiment fait ça. Solide. Puis il y a des petits éléments comme ça là, qui ont été semés à gauche et qui reviennent et qu'on réadresse. C'est fantastique. À la fin de la saison 3, ils trouvent un saut dans le jardin. Il y a comme une espèce de cabane Fisher-Price où le pupa va et on se rend compte qu'il y a tout un univers là-dedans. Et ils sortent un saut d'homme, de monsieur, dans lequel le pupa se glisse, un petit peu comme dans Men in Black, là, la petite bébite qui avait un saut de monsieur, uh-huh. le tout petit extraterrestre. Et le
parce
pupa
se... On comprend que des... Parce que c'est ça, puis dans un épisode précédent...
Oui, il s'est servi de ce saut-là pour orchestrer une fraude économique vraiment très... Mais au final, pour avoir des friandises.
Ah ouais, c'est
c'était
ça.
C'était vraiment beaucoup, beaucoup... Un gros plan super élaboré, juste pour avoir genre une sorte de biscuit, tu sais. Ça avait pas de sens. Et dans la dernière épisode de la saison 3, ils retrouvent le saut dans la cabine, puis ils font probablement c'est une partie d'un plan super machiavélique pour... Je sais pas trop. Et là, ils trouvent des boîtes, des tonnes de boîtes, des biscuits qu'il y a... Tu sais, c'est un callback, c'est magnifique.
Puis
c'est des beaux moments.
C'est, oui, puis en fait, le pupa, ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme tu dis, c'est qu'au début, en plus, il parle pas, puis tout ça. Puis c'est un peu mystérieux comment
c'est
ils
mystérieux,
font ça.
Le pupa.
Parce que, en plus, la personne qui devrait savoir comment ça fonctionne, c'est Terry, mais Terry s'en fout, tu sais, il a pas suivi sa formation comme il faut. Vraiment, vraiment.
Il découvre à un moment donné, Corvo, à quel point Terry est comme, il est supposé d'être l'expert en pupa, puis il sait rien, là.
Non, il sait rien, absolument.
Rien.
Parce que là, des fois, le pupa. Il change de couleur. C'est censé déterminer le fait qui avance dans son évolution.
Ouais, il est rendu où dans sa progression. T'sais.
Mais c'est ça, tu sais. Puis ils en prennent pas soin, ils s'en foutent vraiment.
Vraiment.
Il y a des épisodes de moment donné, il y a un épisode où est-ce que le pupa, tu sais, ils veulent pas qu'il. Je pense qu'ils sont censés peinturer. Puis là,
oui.
il finit par peinturer toute la famille sur le plafond. Puis ça, c'était cute.
C'était vraiment
mais
mignon.
Mais il a tout effacé parce qu'il fallait peinturer comme de la couleur qu'il voulait. Mais on parlait un peu de, tu sais, de personnages un peu atypiques et tout ça, puis je pense que la relation de Corvo puis de Terry est quand même intéressante parce que
oh, tellement.
C'est comme un peu c'est pas du tout en fait sous-entendu parce que dans le fond ce sont des personnages queer et ça j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que Justin Roiland avec Rick and Morty dans le fond tu sais il y avait c'est tellement tu sais Rick and Morty j'ai arrêté de l'écouter quelque part à la saison 3. Ouais, quelque part à la saison 3, la saison où est-ce que, voyons, le...
Pickle Rick
et tout ça, là, oui. Effectivement. Parce que, à un moment donné, j'ai fait comme, ah non, mais je peux pas tolérer le fanbase de cette émission-là.
Oui.
Puis j'ai l'impression que Solar Opposites a voulu comme un peu lancer des doigts d'honneur justement à ce genre de fanbase-là, parce qu'il adresse grosso modo de façon aussi brillante plein d'enjeux de la société, ou plein de ils font une satire de la société par rapport à ça, mais ils le font en étant jamais comme... Le ton est juste à la bonne... Le ton est juste parfait, puis tu peux pas l'interpréter, en fait. Non. Contrairement à des séries, tu sais, on parlait de ça récemment avec des gens, en fait, puis j'ai vu un TikTok, là, fait qu'on s'en colline un peu, là.
Oh, wow.
Mais j'ai vu un TikTok.
Ouais. On est rendu là.
Mais parce que ça parlait beaucoup du fait que, dans le fond, les œuvres qui se veulent des critiques de la société, des fois, puis je pense pas que Rick and Morty a un biais politique, là, genre, absolument pas.
Pas tant, non.
Mais des fois, les œuvres qui se veulent avec un biais politique très à gauche et très anti-autoritariste va plaire à un public qui adhère à des visions fascistes et autoritaristes.
Complètement.
Parce que, dans le fond, là où nous, on voit de la frayeur, tu sais, où est-ce qu'on a peur, en fait, de cette prise de pouvoir-là, certaines personnes l'interprètent comme « Ah non, mais c'est nice comment la personne est capable de prendre le pouvoir. » Puis que, dans le fond, la propagande anti-nazi est souvent proche de la propagande nazie, tu sais, dans le fond, quand on y pense. Puis je trouve que Solar Opposites ne peut pas être interprété de façon à être... Contrairement à Rick, dans le fond, tu sais, la plupart des gens, c'est tout le temps les mêmes bonhommes qui reviennent tout le temps, là, genre le Joker, puis...
Oui, vraiment. En fait,
Oh, mais c'est des anti-héros! C'est comme, OK, oui, c'est des anti-héros, mais Rick, c'est pas une bonne personne.
Sure, mais c'est des... Exactement. C'est qu'à un moment donné aussi, tu glorifies des gens qui ont des comportements de marde, puis tu leur donnes pas non plus la possibilité d'évoluer.
Mm-hmm.
Puis l'évolution... C'est important de montrer ça à l'écran parce que pour la plupart d'entre nous, c'est un objectif qui est réalisable, de devenir meilleur.
Mm-hmm.
Ou en tout cas, de pas être, d'être moins trou de cul le jour de ta mort que la minute où tu as commencé.
Mm-hmm.
T'sais? Puis ce qui est le fun avec le côté sci-fi aussi, c'est que ça nous permet de nous sortir juste assez de notre humanité pour analyser des comportements humains.
Mm-hmm.
Paradoxalement, ça marche. Mm-hmm. T'sais? Parce qu'on s'attend, Corvo, Terry... si on veut s'en tenir aux faits,
ils
dorment dans le même lit.
Mais non, mais ils s'embrassent.
Ils s'embrassent.
Ils ont des relations sexuelles.
Ils ont des relations sexuelles ensemble. C'est pas du tout sous-entendu subtilement.
Non, vraiment pas.
Mais ils ont aussi des relations avec d'autres personnes.
Mm-hmm.
Et c'est hommes, femmes ou autres espèces, créatures non binaires confondues, c'est tout et tout le monde.
Je veux dire, Corvo fait littéralement l'amour avec son anxiété.
Complètement. Exactement.
Pourquoi pas?
Fait qu'à un moment donné, tu te dis, ben, c'est un couple queer non monogame.
Non, c'est ça.
Tout simplement. Si on veut vraiment avoir... C'est l'étiquette la plus fidèle à ce qui est représenté qu'on pourrait donner. Et en même temps, est-ce vraiment nécessaire?
Mais en même temps, on va quand même chercher certaines... Tu sais, comme parce que je pense que Corvo... Là, je me rappelle pas par cœur, puis peut-être que quelqu'un me dirait « Non, t'as pas raison », mais il me semble que Corvo a exclusivement des relations sexuelles avec des personnages qui ont des performances de genre masculin, alors que c'est comme un peu la personne la plus autoritaire de la famille, alors que Terry, qui est très, très proche de ses émotions, est clairement pansexuel, tu sais.
Ah oh oui, ben lui, en fait, sur Schlorp, avait une histoire avec une Schlorpienne qui s'identifiait femme.
Mm-hmm.
Fait que, dans le fond... Déjà, avant de voyager, c'était bien clair que tout ça était bien fluide. En effet, Corvo, on l'a jamais vu avec des personnages s'identifiant femmes.
Mais je trouve ça quand même intéressant comme choix scénaristique.
Oui, là, vraiment. Puis en même temps, est-ce que la possibilité pourrait être là?
Ben, c'est peut-être
un extraterrestre. Ils sont pas dans des constructions sociales humaines de toute façon.
Jessie en parle parce que, tu sais, comme Jessie, elle a une robe rose, puis elle a un petit nœud papillon sur la tête parce qu'elle a pas de cheveux. Là. Mais elle l'a dit à un moment donné qu'elle, ça a comme été. Elle a comme reçu la possibilité de choisir quelle performance de genre elle pouvait prendre.
En fait, ils peuvent tous choisir. C'est ça qu'on apprend. Yu Mulak, à un moment donné, il dit carrément, je te l'avais dit quand t'as choisi fille, que t'aurais pas dû choisir fille parce que t'aurais des problèmes de telle nature.
Mm-hmm.
Puis, quand elle arrive sur Terre, ben, elle devient super féministe parce que, mon Dieu Seigneur, elle a pas le choix. Elle se rend bien compte que. Elle a moins de droits puis des responsabilités de cul, fait que là, fait comme bon ouais, moi je vais protester contre ça. C'est un beau personnage parce qu'elle est naïve, mais elle est pas stupide. Mm-hmm. Je trouve que c'était ça aurait été facile de faire une adolescente vraiment conne.
Elle fait quasiment plus penser à genre une Lisa Simpson un peu.
Beaucoup, oui. Puis mais pas construit sur un genre de douance, juste construit sur... Elle est juste naïve parce qu'elle a probablement genre 11.
Ouais, ben oui.
Mais elle est pas conne pour son âge, tu sais. Elle a des réflexions qui sont intéressantes. Puis c'est foncièrement quelqu'un qui veut faire le bien.
Ouais.
Ce qui est quand même important dans une maison comme celle-là.
Mais on parlait d'évolution, puis... Je pense que Terry et Corvo sont des gens qui sont capables de nuances. Contrairement à Rick, mettons. Exact. Parce que Terry et Corvo vont prendre des décisions qui sont basées sur le bien commun de la famille.
Oui.
Puis moi, j'ai hâte, en fait, de voir. Puis ça, c'était quelque chose que je réfléchissais beaucoup avec le mur. En fait, c'est qu'à un moment donné, le mur prenait tellement de place. Je me suis demandé, est-ce que c'est parce que les créateurs de la série veulent s'assurer que il y ait assez de jus pour comme... parler de toute cette famille-là des Solar Opposites, puis de se dire, bon, ben si on continue à juste parler d'eux autres, on va peut-être pas y arriver à faire comme 10 saisons, je sais pas. Ou est-ce que ça va faire que ils vont devoir accélérer le processus pour justifier les affaires avec le Pupa, justifier les affaires avec les Schlurpians et tout ça, que là, en diluant les saisons, qui sont quand même d'une dizaine d'épisodes chacun de 22 minutes, est-ce qu'en diluant les saisons avec, justement, The Wall, puis en entrant d'autres affaires du lore avec les Silver Cups et tout ça, puis je dis pas que c'est mal, là, je dis juste que je me questionnais à savoir si ça, c'était une des raisons, parce que, tu vois, ils ont déjà annoncé, dans le fond, que la saison 4 allait commencer où la saison 3 se termine, c'est-à-dire avec le fait que, dans le fond, là, oui, c'était un family show, mais là, ça va être un office show.
Oui, mais ou pas, parce que en ce moment, ils ont, où on nous laisse à la saison 3, c'est que ils ont changé de style de vie pour le bien-être du Pupa.
Parce que dans le fond, le Pupa remarquait leur comportement toxique et en étant dans son espèce de crise d'adolescence, il reproduisait beaucoup de ces comportements-là. Mais étant un être très, 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 très puissant, ben, ça a quand même plus de déjà que ça a beaucoup de conséquences, là. Je veux dire, il envoie des, c'est comme ils détruisent des gens, ils les transforment en autres objets.
Hey, ça n'a pas de sens. Dans l'épisode de la... Moi, en fait, c'est ça qui me fait douter du fait qu'ils n'auront pas assez de jus pour finir. Ils ont fait quand même un épisode complet dans une file d'attente et c'était palpitant. Mais l'épisode de la file d'attente, à un moment donné, le Pupa se sauve et devient gigantesque et tu vois qu'en arrière des buildings, il se passe quelque chose avec un genre de Godzilla et le Pupa et... Corvo veut vraiment aller voir, Terry veut rester dans la file, fait qu'on fait juste deviner qu'il se passe de quoi être vraiment hot, mais on voit rien. Fait que dans le fond, le Pupa, il y a quelque chose de très puissant à l'intérieur de lui. Dans un des épisodes de la saison 1, il rentre dans les esprits. Il rentre dans l'esprit de la vieille madame pour y ramener son plus beau souvenir. Puis c'est vraiment... il a une super voix grave. C'est vraiment intense. Puis c'est ça. Puis il est un peu machiavélique par moment. Puis il y a des... On découvre des choses du Pupa, puis on fait « Oh mon Dieu, quelle créature fascinante et en même temps terrifiante! »
Mais c'est comme si Stewie de Family Guy rencontrait genre le petit Renault Nez Rouge des Simpsons.
Ah, genre! C'est tellement un bon comparatif.
Ou plus Maggie, là, mettons. Là, parce que Maggie aussi, des fois, elle fait des comportements erratiques.
Hey, depuis le début, on a des analogies de bonhomme, de Star Trek. Moi, j'étais célibataire longtemps, je veux juste le dire. C'est des fois, c'est dur à porter. Mais bon, tous les gens qui trippent comprennent de quoi on parle. Mais
tout ça pour dire que c'est ça, oui, c'est Mike McMahon, j'ai la misère, parce que le nom sonne pas comme c'est écrit, fait que ça me bug beaucoup. Mais Mike McMahon, puis en plus, ça se dit bien, Mike McMahon, je pense que...
Mike McMahon?
Plus je le dis, moins ça veut dire quelque chose.
ça va sonner comme un bonhomme de Sesame Street, dans pas long.
Mike McMahon. Donc, Mike McMahon... Plus ça va, plus je trouve ça désagréable.
Il est tard, là.
Les journées commencent très tôt. Il disait, donc, c'est ça. Lui, ce qu'il dit, c'est que ça va devenir un office show.
OK.
Dans la saison 4. Sauf que, de la même façon qu'on l'a vu souvent dans, encore, Rick and Morty, là, je suis désolée de faire les comparatifs, mais on fait des comparatifs où il y en a, puis c'est comme un peu inévitable. Souvent, on a l'impression que la saison va aller... Tu sais, comme on nous laisse sur un cliffhanger, mais la situation se règle relativement rapidement dans le début de la saison suivante, puis finalement, on se rend compte que c'est pas vraiment ça qui va se passer, puis c'est pas vraiment de ça que la série va parler.
Moi, mes prédictions, c'est que Office Show, ça va durer une saison, puis après ça, ils vont revenir.
Oui, ça, c'est clair, là. Tu sais, c'est peut-être un peu comme Archer aussi, là. Archer.
Donc, oui.
Archer aussi avait fait ça, tu sais, des fois, comme, mettons, ben là, c'est la saison Archer Vice, là, c'est la saison de...
Tu sais, en fait, c'est ça.
As-tu écouté Archer un peu?
Un peu, oui.
Un peu, mais
j'ai
c'est
pas
ça.
Tout écouté.
Non, mais moi non plus, j'ai arrêté quelque part quand ils sont devenus la CIA.
C'est beaucoup de monde qui ont beaucoup de problèmes.
C'est, oui, mais ça m'a fait rire la fois où est-ce que justement, ils sont, tu sais, parce qu'ils sont devenus comme Archer Vice.
Oui.
Puis là, ça a fait comme...
C'était drôle.
Puis là, ensuite, c'est ça, là, ils sont revenus, mais là, ça n'existait plus parce que là, leur bureau d'espion n'existait plus. Fait que là, c'était devenu comme des consultants de la CIA. Mais tout ça basé sur le fait que c'est parce qu'ils ne pouvaient plus travailler pour ISIS.
Oui.
Parce qu'il y avait un vrai ISIS maintenant dans la vraie vie.
Dans la vraie vie.
Qui était pas la même affaire.
Oh, c'est tellement fantastique. C'est... Oh.
Ah.
J'y repense, puis c'est le fun. C'est ça, la passion des bonhommes. Mais sérieux, c'est ça. Il y a scénaristiquement, c'est trop fort pour qu'ils nous laissent mijoter là-dedans trop longtemps. Puis ils ont trop installé, en fait, aussi le fait que ils sont pas bien là-dedans.
Non, ben c'est ça. Déjà, la fin de l'épisode, ils
ça
sont...
Ça va pas.
Non, ils sont
du
pas
tout,
heureux.
Du tout. Ça va pas. Le Pupa vraiment est mieux, beaucoup mieux. Mais toute la famille a aucun plaisir à exister.
Mm-hmm.
C'était comme... En fait, c'est drôle, parce que là, je vais faire un parallèle qui est pas un cartoon.
OK.
On a parlé de Hacks, mm-hmm. il y a deux semaines.
C'est vrai.
Et ça m'a fait le même feeling que la finale de Hacks, où la jeune fille, elle se fait mettre dehors par Deborah.
OK.
Puis... Elle se fait carrément congédier le soir d'un gros gros party de reconnaissance où tout le monde a brillé, puis machin. C'est une saison qui est supposée s'aligner sur un happy ending. Et à la fin de la soirée, Deborah a fait « t'es à la porte ».
Ben, je comprends.
Parce que
non.
C'est Deborah.
Ben know. Oui, parce qu'elle a pas bien agi, là, aussi. Là,
non, dire, mais tout a été comme... Tout a été rappé, puis les affaires de poursuite, puis tout. Mais elle a dit « mets tes doigts ». Je t'adore, mets tes doigts. Fait que... Écoute, l'autre est détruite, là, tu sais. Puis, elle la voit à la télé annoncer des produits, puis tout. Puis, elle a comme. C'est la seule manière qu'elle peut la voir encore, c'est mm-hmm. si elle la regarde à TV. C'est weird. Ça nous met. C'est super inconfortable. On sent qu'elle a perdu comme la seule figure maternelle qu'elle avait dans sa vie d'adulte. Puis que c'est weird, là. En tout cas, puis ça laisse un sentiment vraiment très doux amer parce qu'on sait que c'est probablement la meilleure affaire, mais on n'est quand même pas sûr parce que... Il me semble que c'était un bon team ensemble. Puis ça m'a fait le même feeling avec Solar Opposites où tout le monde se range et devient plus humain que les humains.
Mm-hmm.
Puis où je faisais, mais oui, mais... Mais sont où nos petits extraterrestres? Sont pas bien. Il faut que quelqu'un leur dise qu'ils sont pas bien puis que le Pupa, on s'en calisse un peu finalement.
Mais on s'en fout vraiment du Pupa? Pas juste à cause qu'il est super puissant, mais aussi parce que...
Il va
comme...
détruire la Terre!
Mais ça revient à un...
Faut qu'on en parle avant qu'on rappe ce show, là.
Parce que c'est ça, parce que, tu sais, comme je disais, dans le fond, avec le fait que, comme, peut-être qu'ils veulent étirer certaines trames narratives à cause de ça, c'est parce que le fait que, dans le fond, il commence à s'attacher beaucoup à la planète. Ça,
oui.
On le sent qu'il s'attache à la planète puis qu'il adore la culture des humains puis tout ça. Puis plus ça va, plus... Au début, il nous installait un petit peu le fait qu'il y avait, tu sais, d'autres Schlorpians qui, dans le fond, c'est vraiment des pas bonnes personnes puis que ça les gossait un peu puis tout ça. Puis là, ça va encore plus loin que ça où on a découvert que, dans le fond, ce qui est arrivé à la planète Schlorp, c'est pas la première fois que ça arrive. En fait, c'est comme le courant naturel des choses, c'est-à-dire il y a toujours une météorite qui va se fracasser sur une planète Schlurp et dans le fond, les planètes Schlurp ont des centaines de milliers de fois... Schlurp a formé, genre des planètes et se sont reproduites et tout ça, puis c'est une espèce envahissante, finalement.
Oui, oui, en fait, on se rend compte que c'est grosso modo un parasite avec beaucoup de malchance.
Ouais.
C'est littéralement ce que c'est. Parce que je veux dire, à quel point t'es malchanceux quand t'as toujours un putain d'astéroïde sur ta planète. Mais en même temps, c'est aussi une piste scénaristique vraiment intéressante. À quel point t'es malchanceux, entre guillemets, qu'il y ait toujours un météorite. Y a-tu quelqu'un qui détruit les Schlurpians? Moi, c'est une question que je me suis posée après la saison 3.
Mais là, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire un lien avec d'autres œuvres de science-fiction.
Tout à fait.
Comme Mass Effect.
Oui.
T'as-tu joué à Mass Effect un petit peu?
J'ai pas joué, mais je sais c'est quoi.
Mais c'est ça. Mais tu sais, un petit peu la logique, comme les moissonneurs, c'est un peu leur travail. Là, quand les... C'est pas juste les humains, là, mais quand les populations deviennent trop... les civilisations sont capables de comme prennent trop d'espace, comme un peu un cycle naturel des choses, où est-ce que dans le fond les moissonneurs vont revenir pour les réguler un peu la population, ouais. C'est ça, là, c'est comme des cycles naturels des choses. Puis si on se dit que dans le fond, ben c'est comme que, pour pas faire un mauvais référent à l'actualité des deux dernières années, mais que les pandémies, c'est des régulateurs de société, ben c'est pas moi qui dis ça, c'est Boucard Diouf. Fait que mais c'est ça, mais est-ce que justement j'ai l'impression que, tu sais, vu que de ce qu'on semble comprendre, Terry et Corvo et leur replicant sont pas, c'est comme dit qu'ils sont pas assez doués. Tu sais, parce qu'ils sont vraiment, justement, tu sais, eux autres même sont pas chanceux, sont mm-hmm. gauches, puis c'est pour ça qu'on aime les suivre et tout ça.
En effet.
Mais dans le fond, est-ce que c'est justement eux qui vont s'extirper du cycle infernal et éternel des Slurpians?
Ben, en fait, quand on voit via Aisha.
Oui, leur intelligence artificielle.
Leur intelligence artificielle qui est jouée avec brio par Tiffany Haddish.
Mm-hmm.
Et qui a du sas en tabarouette, ouais. On va se le dire. Mais en fait, quand l'intelligence artificielle leur montre en fait ce qui est arrivé aux autres équipes, ben on réalise que sont pas mal pratiquement le seul espoir de cette gang-là. Mm-hmm. Là. Parce que les autres équipes, ça s'est vraiment pas bien passé. Là.
Ouais, mais peut-être qu'il y a quand même, si on se dit que ce cycle-là est infini, il doit y avoir des Slurpians partout.
Ben, en fait, moi, je me suis demandé, c'est ça, jusqu'à quel point, à la fin de la saison 3, mes questions, c'était ça. C'était jusqu'à quel point c'est de la malchance, ce putain d'astéroïde à chaque fois.
Mm-hmm.
Jusqu'à quel point il y a une force à quelque part qui essaie de détruire cette race-là. Et on a même scénaristiquement semé cette graine-là dans notre tête avec l'arrivée des Silver Cups.
Mais les Silver Cups qui sont censés être la seule, voyons comment je pourrais dire, comme force armée
qui doit les détruire,
mais on découvre que finalement les Silver Cups
sont assez corrompus.
Sont très, très, très corrompus. Fait que c'est même pas les good guys. Tu sais, il y aura pas de good guy, là, je pense, dans toute histoire-là.
Non, je pense pas, non.
Mais il y a même au-dessus d'eux ou en parallèle d'eux, les Golden Cups. C'est quoi le endgame des Golden Cups? On le sait pas.
Hey, tout ça, toutes ces graines semées qui n'attendent que la pluie et le soleil pour faire de jolies fleurs de scénario. J'ai très hâte, pour vrai, j'ai très, très hâte à la saison 4 parce que, mon Dieu, que j'ai des questions puis pas assez de réponses et j'espère que ces réponses-là vont se trouver là.
Puis tu vois, moi, un peu à la manière des Slurpians, souvent quand il y a des gens qui viennent chez nous puis que, tu sais, comme il est tard puis là, on pourrait peut-être écouter un petit quelque chose avant de partir, là, tu sais, comme on rappe la soirée, mettons, j'ai un ami ou une amie, puis c'est comme on rappe la soirée, puis je suis comme, t'as-tu déjà vu ça, le opposite? Puis là, je réécoute le premier épisode avec ces personnes-là, puis ils sont tout le temps comme, OK, c'est vraiment nice. Puis c'est comme, oh ouais, mais là, attelle-toi, là, c'est 3 saisons, puis ce n'est que de mieux
c'est
en mieux.
C'est juste du bonbon. Ben, tu vois, moi, avec mon copain, on a fait ça cet été. Moi, en fait, fallait que je le finisse éventuellement, puis j'ai voulu m'avancer aussi parce que j'ai travaillé beaucoup cet été, j'allais pas l'attendre, là, mais je veux dire, la valeur de réécoute est absolument fantastique.
Oui, puis comme tu dis, on revoit les référents, oui. Puis les réponses, puis à quel point il y a des choses qui sont récupérées ou planifiées d'avance.
Mais sincèrement, si vous prenez votre tendre moitié, là, c'est ça, vous dites, à soir, on se commande de la poule, puis on se binge-watch du Solar Opposite, là. C'est
du tofu.
Ou n'importe quoi. Je dis de la poule, mais maintenant, la poule, ils ont toujours une option vegan. Fait que, hein? Puis c'est ça. C'est avec votre partenaire de vie ou votre coloc ou vos amis. C'est ça. Nous autres, c'est ce qu'on a fait cet été. C'était fantastique. Puis, vraiment, j'ai pas beaucoup de critiques à formuler sur cette série.
T'en as-tu au moins une? Parce que là, tu me dis, j'ai pas beaucoup. Qu'est-ce que tu reprocherais à la série?
Ah, mon Dieu! Ben, je te dirais que, pour moi, l'absence de personnages féminins forts à part Jessie,
mm-hmm.
c'est quand même quelque chose. J'aimerais ça qu'en saison 4, on ait peut-être une ou deux madames de plus avec des grosses partitions, ça serait cool.
Ben, parce que là, je pense qu'on va voir Sherry.
Sherry, ça serait nice, mais je veux dire, Sherry, elle évolue quand même dans un monde d'hommes et de bonnes sœurs. Ouais, ce qui est quand même un peu convenu.
Mais c'est quand même fait par des messieurs.
Hein. Hey, sérieux, j'en parle comme genre 2 minutes avant qu'on finisse, puis c'était vraiment la seule affaire que j'ai... Jusqu'à quel point j'ai aimé la série pour pas que cette critique sur un point féministe prenne le dessus sur toute ma réflexion par rapport à ça. Ça m'épate moi-même.
Ben, en tout cas, moi, ça m'a donné le goût de réécouter Rick and Morty. Fait que là, j'ai reparti la saison 4, que j'avais fini la saison 3 de Peine et de misère à l'époque.
Faut juste pas lire les commentaires,
Faut juste le faire pour soi-même. Alors que Solar Opposites, ben, vous êtes avec nous, puis c'est nice. Puis on se partage, puis partagez-nous ce que vous pensez de cette série-là. Puis on se retrouvera donc probablement l'année prochaine pour jaser de la saison 4.
Ah, avec plaisir.
Là-dessus, ben Isabelle, c'est déjà tout le temps que nous avions pour parler de Solar Opposites. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Ben merci de m'avoir accueillie dans ton Amazonie, Elisabeth.
Ben dans mon Amazonie fort humide. Donc on va essayer de survivre le temps de sortir de l'UQAM. Et là-dessus, ben je vous souhaite bonne chance avec les prochains déluges et à très bientôt!